RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovico Bragnac et de Jonathan McCardy, la sixième journée de Ligue 1 qui a démarré ce soir avec le match nul entre Nîmes et Monaco. Un but partout, Briançon a marqué le premier à la 19e, Falcao a égalisé à la 27e minute de jeu. 6 points en 6 journées pour l'AS Monaco, 8 pour le Nîmes Olympique. Il y a Loco qui nous laisse un petit message sur le direct studio en disant « N'oubliez pas de préciser que Monaco n'a pas gagné à domicile depuis le mois de mai. » Alors c'est vrai, depuis son dernier match à domicile de la saison dernière, c'était face à Saint-Etienne, une victoire, mais ça fait 4 matchs quand même sans victoire à domicile cette saison, toute complète confondue. Si on ajoute la défaite de cette semaine face à l'Atlético de Madrid, ça c'est un peu inquiétant aussi pour l'ASM. Même si on sait que Louis II, c'est pas l'ambiance la plus ouf, mais...
C'est une équipe, de toute manière, on le fait que le dire, on va se répéter. Mais il n'y a aucune certitude depuis que la saison a reprise. Franchement, tu t'attends à quoi? Et en fait, là où il faut questionner vraiment l'essence même de ce qu'est ce club, alors on sait que c'est un club qui fait de la revente, qui fait du trading, ça, c'est très bien. Mais pourquoi ça choquait personne jusqu'à présent? C'est parce que chaque année, il finissait sur le podium. Chaque année, c'était un des acteurs, un des protagonistes de la Ligue 1. Là, je pense qu'ils sont en train de jouer un jeu qui est dangereux. Ils s'en rendent pas compte. Je pense que les dirigeants en début de saison pensaient que ça allait quand même fonctionner parce qu'ils ont quand même sorti les biftons sur des joueurs. Ils ont payé je sais plus combien, 15, 20 millions sur Jebel par exemple. Ils ont envoyé le blé sur des joueurs, mais sans se rendre compte que fallait quand même préparer la saison à venir et que ces investissements allaient être rentables à N+2, N+3, mais pas cette saison-là. Donc moi je sais pas à quoi ils jouent cette année, mais ça risque d'être très compliqué, voire anodin.
Et Sagat qui nous dit bravo à Nîmes. Et on va en parler dans quelques secondes du Nîmes Olympique, bien entendu, qui a arraché encore un match nul chez un gros. Je vous donne les résultats de la 8e journée de Ligue 2 également. Et on vous invite à nous appeler au 32-16 supporters des clubs de Ligue 2 pour y revenir dans quelques instants également. Valenciennes a cartonné face au Red Star 4-1. Pas de but entre Auxerre et Ajaccio. 2-0 pour Châteauroux face à Béziers. Orléans est allé s'imposer 1-0 à Sochaux. 0-0 aussi entre Lorient 2e et Clermont. Le Nancy, ça c'est l'événement de cette soirée, c'est le grand enseignement, même s'il n'y a pas vraiment de conséquences, qui a marqué le premier but cette saison et qui a remporté ses premiers points. Victoire 1-0 à Ajaccio face au Gazélec. C'est Mabolou qui a marqué le but de la victoire et le seul but du match face au Gaz. Donc le Brest s'est imposé 2-1 face à Grenoble et 1 partout entre Le Havre et Troyes. Belle opération également pour le Stade Brestois qui monte à la 3e place en attendant le match entre Niort et Lens. Niort et Lens qui sont d'ailleurs juste derrière. Premier, on a toujours le FC Metz qui jouera face au PFC, ce sera demain. Et deuxième, on a toujours le FC Lorient. On vous attend donc au 32-16 pour revenir sur ces résultats et de Ligue 2.
T'as oublié, Valenciennes, il y a une ancienne connaissance marseillaise qui a marqué. J'ai même plus qu'il jouait là-bas. J'ai même pas qu'il jouait là-bas.
Il a signé dans les, je crois que c'était les derniers jours du mercato.
J'ai même pas qu'il jouait là-bas.
Les dernières heures, même peut-être. Peut-être même après d'ailleurs les dates du mercato. Il me semble il a signé assez tard. Raspantino. Un partout donc entre Monaco et Nîmes. Et Jean-Luc, supporter du Nîmes Olympique, nous a appelé au 32-16. Il était à Louis II pour aller supporter son équipe. Salut Jean-Luc.
Bonsoir à tout le monde.
Salut Jean-Luc. Et alors Jean-Luc, c'était comment?
Ah, c'était excellent. Bon, on est monté à 5 mois. Une grosse ambiance du côté de Nîmes. Pas grand chose voir du côté monégasque.
On entendait régaler.
Franchement, je pense qu'on a devant tant de connus. En tout cas, moi, je suis fier du Nîmes Olympique parce que depuis le début de cette saison, on n'est pas ridicule. On a tapé les gros, on n'a pas été ridicule contre Paris, ce soir non plus. Il y avait même la place pour gagner, je pense.
Bah oui.
Voilà.
Sur la fin de match, notamment, quand Monaco a cette série de grosses occasions, tu sens que Nîmes est en train de reprendre la main sur le match. Alors,
ouais, exactement.
Ça joue à quoi? Ça joue à 2-3 imprécisions. Mais sur les coups francs, tu sais quoi, quand sur le coup franc, l'avant-dernier coup franc là, je sais pas, mais j'étais quasiment sûr que Nîmes allait marquer. Parce que l'impression qu'il renvoyait, le caractère qu'il renvoyait était quand même assez fort.
Ouais, mais c'est ce qu'on a connu lors des matchs derniers, c'est ce qu'on a réussi à faire, à repasser devant quoi. Bon, mais c'est pas grave, on a ramené un point de Louis II, c'est déjà bien. Maintenant, bon, on va recevoir Guingamp, je pense que bon, on va ramener la victoire. Et ensuite, on ira à Montpellier. Hein.
C'est ça. Et alors, le derby, c'est déjà dans 2 journées, hein. Ça va être pas mal, ça.
Ah oui, c'est le gros derby, là. Le gros derby, il va y avoir une grosse amuse. Et j'espère qu'on ramènera les 3 points.
Ludo? Non, mais je crois que vous pouvez être fier de votre équipe, Nîmes.
Ah, mais moi, je suis fier, franchement. Je suis à fond derrière Nîmes. Et depuis le début de saison, il nous régale à Nîmes. Franchement,
Nîmes représente parfaitement les valeurs du Sud. Tu sais, ce côté un petit peu arrogant, mais la bonne partie de l'arrogance.
Ah, tu trouves toi qu'il y a ça, toi?
Non, mais c'est la bonne partie, c'est-à-dire sur la prise de risque de jouer sans peur. Ils jouent les gros, les yeux.
Attends, est-ce que toi tu trouves que l'arrogance c'est un truc de sudiste?
Non, mais il y a ce côté un peu petit.
Bah, parce que j'essaie de te trouver des potes là vite fait là.
Mais... on notera que notre auditeur il a dit
des mecs qui se la racontent, il y en a partout.
On note, on notera que notre auditeur il a dit il nous régale à Nîmes. Ça c'est un vrai sudiste. C'est un vrai sudiste.
L'arrogance.
Le Becherel il passera, mais c'est un vrai sudiste.
Tu peux le prendre d'un côté, tu peux le prendre de l'autre. L'arrogance, ça peut être la bonne partie du.
C'est le panache. C'est le panache.
Ouais. Au-delà du panache, je trouve qu'il y a ce côté. Allez, on y va sans peur, on les joue les œufs dans les yeux.
C'est du panache.
Peu importe.
Alors c'est vrai qu'il y a eu la victoire face à Marseille, il y a eu ce match face à Paris qui était quand même assez énorme. Là, il y a un match nul également à Louis II. C'est pas mal, hein. Et c'est vrai que là, tu donnais le calendrier aussi, Jean-Luc. Oui. Match contre Nîmes, déplacement à Montpellier, match contre Reims. Ensuite, il faudra aller à Lyon et jouer contre Saint-Etienne. Mais là, t'as trois matchs qui, sur le papier, sont assez accessibles. Faut quand même préciser aussi que vous avancez un peu au ralenti quand même, Nîmes. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des belles affiches, mais...
C'est ça qui fait râler, c'est qu'on prend un peu par-ci et un peu par-là, et bon, maintenant, ça fait gagner les matchs.
Mais le problème, non mais le souci avec Nîmes, tout le paradoxe avec Nîmes, c'est que cette équipe, à chaque fois qu'on la voit jouer, on se régale. Mais
oui, c'est bon.
Le déséquilibre qui fait qu'on a de l'excitation de les voir jouer, ça leur joue quand même des tours. Moi, alors, pour l'instant, sur le plan comptable, ça va, ils sont bien, mais j'aimerais pas, par exemple, qu'ils nous fassent, comme le 3 de Furlan, par exemple, tu vois, une équipe qui était toujours enthousiasmante d'avoir joué, mais qui, de par trop de lacunes et de lapsus défensifs, s'amusait à faire l'ascenseur entre les deux divisions. Pour l'instant, on est loin d'être dans ce cas-là.
En tout cas, mais c'est plaisant à regarder, et c'est vrai que c'est
une certaine fraîcheur. Attention à l'hiver.
Mais c'est vrai,
attention à l'hiver.
C'est vrai qu'on l'a vu, on regardait le match tout à l'heure, et c'est vrai que à un moment donné, tu peux voir sur une touche, dans les 30 derniers mètres, t'as 7 joueurs nîmois. Et c'est-à-dire qu'il y a un espace au milieu de terrain. Et on parlait du milieu de terrain monégasque tout à l'heure, et ça pointe d'autant plus le fait qu'il y a des carences à ce niveau-là, parce que Monaco n'a pas su profiter de ces ballons de récupération
là, ça a un
pour
peu
pouvoir aller.
À un moment, mais... Alors,
ce qui est intéressant d'ailleurs entre Nîmes et Monaco, c'est qu'ils ont une différence de but 0. En revanche, c'est pas les mêmes chiffres.
Ouais,
8 buts marqués, 8 buts encaissés par Monaco et 13 pour Nîmes.
Mais tu vois le but de Falcao, quand tu arrives à toucher justement ce joueur entre les deux lignes, là où Nîmes s'expose un peu, tout de suite tu te retrouves face à la défense.
Les lignes sont très distendues.
Alors Briançon, c'est très bon quand il arrive et qu'il est derrière l'attaquant. Par contre, quand on vient le fixer, c'est un peu plus compliqué. Donc il faudra faire quand même attention à ça du côté nîmois.
Ouais,
mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette équipe.
Mais après, là où je m'inquiète, c'est que Nîmes, c'est une équipe. Bon, tu sais très bien quand ces équipes qui arrivent de Ligue 2, elles sont prêtes, elles ont le couteau entre les dents dès le début de saison. Et des équipes, à l'instar de Lorient, quand il y avait Gourcuff, qui se préparaient justement pour être plein gaz en début de saison. Moi, là où je m'inquiète un peu, c'est que leur style demande une débauche d'énergie qui est assez conséquente. Et je me demande s'ils auront assez de ressources en termes de quantité sur le banc et de qualité sur le banc pour qu'au moment où tu sais, quand c'est janvier, que c'est février,
regarde ce soir, voilà, pour pas couler. T'as quand même Buenga qui est sur le banc, t'as de la ressource quand même, attention, hein.
Ouais, mais les joueurs, t'as pas un banc non plus, tu t'en as pas 14-15 joueurs.
Il manque Savanier, celui qui l'a remplacé.
C'est le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur.
A été très bon ce soir.
Valls.
Me demande pas le nom, je
Manuel.
Me souviens plus.
Valls.
Ouais.
Valls.
Manuel.
C'est Valls.
Mais bon, ils ont une capacité à pouvoir se renouveler, et je suppose que pour l'instant ça marche comme ça. S'il faut réajuster quelques sur le plan tactique, je crois que leur entraîneur est assez intelligent pour pouvoir le faire.
On remercie Jean-Luc, en tout cas, qui nous a appelé. Bon match à toi, Jean-Luc, et bon derby dans 15 jours. Hein.
Ouais, merci, bonne soirée à vous tous.
Un pronom pour le derby, Jean-Luc.
Ouais, merci. Pour nous, on a gagné 2-1.
2-1 ?
Ok, buteur.
Ouais, 2-1. Buteur, un petit Bozok et un petit Boubichon sur son train en direct, là. Voilà.
Allez, c'est fait. Salut, Jean-Luc, bonne soirée à toi.
Allez, bonne soirée à tous.
Il sera pas revenu, Savanier.
Ça gueulait derrière.
Il sera pas revenu, Savanier.
Ça devrait être son dernier match de suspension.
Ouais, ça, c'est ballot.
Pierre-Emmanuel est lui aussi supporter du Nîmes Olympique, et lui aussi nous a appelé au 32-16, et lui aussi il est en direct dans l'after. On rappelle, match nul ce soir, un partout entre Monaco et Nîmes, première affiche de la 6e journée de Ligue 1. Salut Pierre-Emmanuel.
Oui.
Bonsoir. Alors,
salut.
Ouais,
bonsoir.
Salut
PE.
Ça va?
Et toi alors?
Ça va très bien. Avec un beau match comme ça peut caler, hein.
Allez.
Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce match, dans cette équipe de Nîmes, justement?
Je suis désolé, mais ça saccade un peu. Vous m'entendez?
Ouais, on t'entend, là. Tu nous entends? T'étais au match aussi?
Non, moi, j'étais pas au match, je suis désolé. Je vous écoutais sur RMC. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pas pu me rendre au match, quoi. Mais on les a supportés avec les amis, là. Et ils nous ont vraiment régalé, quoi. Hein. Par contre, je voudrais juste réagir sur le petit mot, le fait que les Nîmois sont, du moins, le jeu des Nîmois sont arrogants, c'est pas trop le cas, quoi. C'est juste
non,
qu'on a l'envie
pas,
et qu'on...
Non, on s'est mal compris.
Tu vois, je t'avais dit que t'allais te faire des potes.
Mais non, mais on s'est mal compris. L'arrogance, il peut y avoir le bon côté du mot arrogant, c'est-à-dire c'est cette espèce de façon de pouvoir jouer les yeux dans les yeux. C'est pas l'arrogance mal placée.
C'est de la fougue.
si tu
c'est
veux.
C'est-à-dire la panacée, si, c'est de la fougue.
Si tu préfères. Mais dans le mot arrogance, il y a deux côtés du mot. Il y a le mauvais côté, il y a le bon côté. Moi, je place du bon côté. Et je le maintiens, d'accord, parce que pour moi, il est plus fort que panache ou...
Tu veux dire, il se rabaisse pas face au gros, quoi. Les mecs sont pas intimidés. Ouais, ils jouent les yeux dans les yeux. Sans complexe. Voilà, décomplexé.
Sans complexe.
Bravo, c'est ça te va, Pierre-Emmanuel, décomplexé?
Mais ne prenez pas le mot arrogance comme content. Ou au premier degré.
Ah bah on l'a perdu, PE.
Bon, t'es là, Pierre-Emmanuel, ou pas?
C'est juste que voilà, je trouve que c'était pas le bon temps pour représenter le jeu nîmois. Après, j'ai bien compris que c'était pas quelque chose de péjoratif, mais et quelque chose
qui voulait... Moi, je vais te dire, Pierre-Emmanuel, nîmois, voilà, si je peux résumer le jeu des nîmois, on va essayer de le dire poliment, c'est qu'ils sont des grosses valoches, quoi. Sérieusement, c'est ça en fait depuis le début de la saison. C'est qu'ils ont des grosses valoches, peu importe ce qu'il leur adversaire.
Moi, je trouve ça toujours un peu réducteur, tu vois,
Ah non. Tu vois. C'est réducteur si c'est t'as des grosses valoches parce que tu restes à 10 derrière et que tu vas dans le combat et que tu sors, tu défends le cul par terre. C'est pas.
Mais il y a pas que ça. Il y a du jeu, tu vois. Tu sens qu'il y a un travail tactique qui est fait par Blackard. Enfin, tu vois.
Mais quand je te dis ça, c'est parce que il y a une débauche d'énergie qui est demandée par le système mis en place par Blackard. Il y a aussi le fait de pas baisser son froc et de pas baisser les yeux face à des adversaires qui sont sur le papier plus forts. Et t'as aussi le fait de toujours essayer d'aller de l'avant et même en fin de match, alors que tu pourrais te contenter d'un match nul contre Monaco qui reste une des grosses équipes de Ligue 1, de quand même essayer d'aller chercher le résultat. Donc
une philosophie qui est liée aussi aux joueurs que tu as sur le terrain. Là ce soir il te manque Savanier.
C'est leur joueur le plus important.
Le match contre le Paris Saint-Germain que je cite un peu ce soir en référence, où ils ont essayé justement de ressortir le ballon avec Savanier qui est le maître à jouer de cette équipe, ce soir ils l'ont pas. Donc ils ont changé stratégiquement, ils ont joué plus long et ils ont mis de l'impact devant, ils ont mis 4-5 joueurs à chaque retombée du ballon avec des milieux qui allaient très haut pour justement jouer ce second ballon. Donc c'est une équipe qui sait s'adapter. Après c'est vrai qu'il y a des périodes d'accalmie, ils donnent tellement d'intensité dans ce qu'ils font, autant offensivement et défensivement, que c'est dans ces périodes-là qu'ils sont en danger. Mais moi je suis confiant sur la suite des événements pour cette équipe.
Ouais. On va se faire l'évaluation de ce Monaco-Nîmes, un but partout, on rappelle les buteurs, Briançon à la 19e et Falcao à la 27e, et on va faire cette éval avec Raphaël, autre Raphaël et autre supporter de Nîmes d'ailleurs qui nous a appelé au 32-16. Salut Raphaël.
Oui, salut à tous.
Tu nous entends bien là, Raphaël.
Ouais, j'entends bien, je m'entendais bien.
Ah là, nickel. Bravo. Ouais, des petits soucis là avec les jeunes qui sont dans le sud. Bon, tu l'as trouvé comment ce match, toi, Raph?
Ce match, je vais presque dire, je vais pas dire qu'on s'ennuie parce qu'on a vu que deux buts, mais il partait dans la lignée de ce qu'on avait vu sur le début de saison avec des matchs un peu dingues comme à Angers ou comme à Bordeaux. Et au final, moi, je trouve qu'on a une deuxième mi-temps où même si on s'est quand même un peu fait dominer, on a bien tenu le choc. Et je retiens ça parce que c'est vrai que moi j'écoutais l'avant-match où je crois que c'était Lionel Charbonnier qui disait effectivement sur toute une saison, c'est-à-dire que des matchs spectaculaires comme ça, on ne sait pas si c'est tenable, il faudra avoir un peu d'assise défensive. Et ce soir on l'a vu, donc un peu rassuré et très content parce que moi, quand on montait Ligue 2, si on m'a dit qu'on prenait un point à Monaco, j'aurais dit ok tout de suite quoi.
On va se faire l'éval de ce match. Qui pour toi Raphaël, qui pour vous d'ailleurs Ludo et Jonathan, a été le cador de ce Monaco-Nîmes? L'homme du match.
Pour moi, c'est capitaine Briançon qui met le but de Nîmes et qui tient la barre derrière, même s'il a fait une deuxième mi-temps un peu plus en dedans.
Ouais, c'est un peu la faute sur le but de Falcao aussi.
C'est ça, ouais.
Ouais, voilà.
Il sort un peu vite.
Mais, donc, pour moi, après, c'est peut-être plus sur tout le début de saison finalement, et là, ce soir, c'était plus criant. J'ai pas vu vraiment un cador dans le match.
Ah, votre gardien.
T'as vu qui toi?
Bernard.
Ouais, je suis assez d'accord avec pour Bernardoni aussi moi.
Ouais, effectivement. C'est vrai que sans lui on aurait peut-être pu repartir avec une défaite effectivement.
Il les décourage eux qui les sortent du match.
Moi c'est Falcao.
Ah ouais.
Il doit marquer ce deuxième but là sur l'action où il touche la barre.
Ouais, il fracasse la barre.
Il est omniprésent. Il est omniprésent sur le front de l'attaque. Il est tout seul.
Ce sera Bernardo, de toute façon, le cadre de ce match.
Ouais, mais Falcao, c'est autre chose.
Les gars, le pied carré de ce Monaco-Nîmes.
Compliqué.
J'ai rien contre lui. Mais Radji, c'est fini, là.
Radji, je crois un peu en dessous. Et quand
encore plus sur un côté.
De Monaco, j'ai trouvé quand même un peu court par rapport à nos joueurs aussi. Quand même.
Il est jeune, il a le bénéfice du doute. Mais Radji, il a fait des belles choses, mais là, ça fait encore plus quand il est aligné sur un côté comme ça. C'est criant.
Radji était un peu aux fraises. Enfin, au début, on l'a un peu vu, mais après, c'est vrai qu'effectivement, il était un peu...
On a Radji, Ludo, quoi.
Non, moi, plus de l'autre côté.
Baraka.
Ouais.
Ah ouais, Baraka plus.
J'ai hésité entre les deux, hein, honnêtement. Et parce que lui, après... le problème, c'est que il les flingue sur un, du point de vue de l'équilibre. Il sait pas se placer.
Bah, ce sera Raji, parce que vous êtes deux, les mecs, à le dire. Ouais, et le taulier de ce match, le taulier de ce Monaco Nîmes.
Ah bah Falcao.
Ouais, là pour le coup, Falcao. Je mets Falcao moi aussi.
Parce qu'il
Falcao,
est toujours ouais. là, il est pas brillant, mais quand même son but, c'est lui qui maintient hein. l'équipe à flot. Tu peux toujours compter sur lui, c'est lui qui tient la tôle.
Moi, Raphaël. En tant que Nîmois, le seul où je me suis dit, effectivement, dès qu'il a la balle dans les pieds, j'ai peur, c'est Falcao. Ouais. Après tous les autres, il y a aucun moment où je me dis, il va faire une différence ou quoi. Je me dis, ok, ils ont la balle, mais c'est tout quoi.
Et enfin, on aurait pu mettre Blacard comme taulier, même si c'est habituel de mettre un coach comme taulier, mais.
Enfin, tu peux mettre dans les joueurs concis, tu pourrais mettre une rubrique joueur vaillant aussi, hein, parce que t'en as du côté de Nîmes, les Tubes, les Ripards, ils font un travail sur le côté. Attention, hein, c'est exactement, même les arrières latéraux. Ouais.
C'est le collectif entier.
Le boulot qu'ils font.
Et le Casper de ce Monaco Nîmes.
Moi, je dirais de notre côté, à la couche, qui a été un petit peu en dessous par rapport à ce qu'il fait habituellement.
Moi, j'ai trouvé Glick. Je le trouve vraiment
t'es
en dessous.
T'es déçu, toi?
Ouais, sur le marquage, sur le but de Briançon. Je sais pas si c'est lui qui est, mais il me semble que oui, mais c'est vrai que même dans le jeu, il apporte plus ce qu'il apportait sur les sorties de balles, sur le.
Après, je vous rappelle, le concept du Casper, c'est vraiment le mec qu'on n'a pas vu du match. Hein, c'est
bah alors, était là. Et pourtant, Dieu sait que je l'adore. C'était mon collègue, mais c'est vrai que je le trouve de moins en moins rassurant. Et ce soir,
au contraire, je sais.
Moi, pour moi, même s'il tire bien, on l'a vu parce qu'il a tiré quelques bons coups de pied arrêtés, mais tellement il continue d'être décevant.
Ouais. Ah, il a failli mettre un joli but aussi. Enfin,
dans son sens du placement, dans tout ça, tous les petits ballons qu'il perd, à chaque fois un petit peu en retard sur les phases de repli défensive, il est agaçant. Il est agaçant parce que tu sens que c'est un bon joueur techniquement, mais que là, voilà, il entame sa deuxième saison, on lui laissait quand même le temps d'adaptation à la Ligue 1, etc., de passer dans une autre dimension en étant à Monaco, mais là, ça commence à...
Non, moi, au contraire, je trouve qu'il est pas mal. On le voit de plus en plus, j'ai l'impression, moi, à Monaco.
Et dans son placement, moi, notamment c'est son but, il me dérange, quoi. Ouais. Il joue au milieu quand même le mec. Ouais, t'as l'impression qu'il est toujours en retard sur les phases de transition.
On avait tendance à le présenter comme un 10 d'ailleurs.
Non, c'est pas un 10.
Non, mais il est hyper présent offensivement, je trouve, moi, de plus en plus là. Depuis qu'il a marqué là,
Et puis honnêtement, moi qui suis justement spécialiste de l'exercice sur les
l'arrogance,
sur les
l'arrogance du sud.
La bonne ou la mauvaise partie. Non, mais il tire particulièrement bien les coups de pied arrêtés.
Et ça, oui, c'est aujourd'hui, ce que disait Jonathan,
et ça aujourd'hui, dans le football moderne, c'est quand même, quand t'as un match comme ça compliqué où il faut débloquer des situations, c'est quand même une force.
Bon, du coup, on met qui en Casper alors, les gars?
Bon, on peut mettre tout le monde d'accord. On va mettre Glick.
On va mettre Glick.
J'étais entre Glick et...
On récapitule l'évaluation. Le Cador, c'est Bernardoni. Le pied carré, c'est Raji. Le taulier, c'est Falcao. Et le Casper ce soir, donc pour vous, c'est Glick, les gars. Merci Raphaël d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et une petite mention pour le petit Diop quand même.
Oui, aussi.
Parce qu'on sait que c'est un joueur qui est très prometteur et là ce soir il a montré que c'était quand même clé du foot.
Voilà. On remercie Raphaël qui nous a appelé au 32-16. Dans quelques instants, on reviendra sur le match dans deux jours. On a J-2 du Lyon-Marseille. La grosse affiche. Hein, Bruno Genesio qui était aujourd'hui d'ailleurs en conférence de presse. Ouais. Et on va l'écouter d'ailleurs
et qui va défendre l'OM?
Ah bah vous en prenez un chacun. Vous
c'est évident.
Mais il y en a un qui est objectif ou pas?
Il y a personne n'est plus dur sur l'OM que quelqu'un qui aime l'OM.
Et on rappelle ce soir également 8e journée de Ligue 2 et Nancy s'est imposé, première victoire de la saison, premier point de l'année, premier but marqué par l'AS Nancy Lorraine cette saison en Ligue 2. Et on attend les supporters de Nancy au 32-16. On vous attend d'ailleurs.
Il nous a quand même rappelé que Raspantino avait joué à Marseille.
Ah, mais ce qui est vrai.
On
sait qui va défendre, hein, c'est dire. Allez, à tout de suite pour la suite de l'after avec Ludo Bragnac et Jonathan McCardy. À tout de suite.
RMC Football Show. L'after foot. Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Ludovico Bragnac et de Jonathan McCardy. Vous êtes également avec nous via l'application Direct Studio sur le hashtag RMC Live, bien entendu. Également, ce soir, première affiche de la 6e journée de Ligue 1. Un partout entre Monaco et Nîmes. Briançon a marqué le premier pour les Crocodiles. Égalisation de Falcao à la 27e minute. Un partout entre ces deux équipes. 6 points en 6 journées pour Monaco, on le rappelle. 8 points pour Nîmes. Après 6 journées. On est à J-2 de l'affiche entre Lyon et Marseille. Bruno Genesio qui était en conférence de presse aujourd'hui. Faut-il rappeler que les Lyonnais se sont imposés face à Manchester City cette semaine en Ligue des Champions 2-1. Que Marseille a perdu hier à domicile, match à huis clos, face à l'Eintracht Francfort 2-1 là aussi. Et Bruno Genesio donc qui s'est donné un petit peu d'air, qui est à 3 points de l'Olympique de Marseille au coup d'envoi de ce match, était aujourd'hui en conf de presse. Et Edouard G lui a posé la question de savoir si cette victoire justement lui offrait un petit peu de répit. Écoutez sa réponse.
Est-ce que tu as l'impression de t'être racheté en quelque sorte du crédit auprès d'un certain nombre de supporters avec cette...
Ça sert à rien, moi je m'en fous de ça. Franchement, je m'en fous.
Voilà, c'est clair comme réponse.
Oui, bon, il doit mettre la forme quand même un petit peu, mais c'est vrai qu'on le sent... Tu vois, je pensais à une pub, tu sais, pour la marque de pneus sans maîtrise, la puissance n'est rien, tu te souviens?
Ouais, je m'en souviens, l'ancien sponsor de l'Inter Milan.
Et j'ai trouvé que enfin, Bruno, sur le dernier match, Bruno Genesio avait trouvé la bonne pneumatique pour son. Lyon, c'est pas une Ferrari. C'est quand même une Mercedes. Quand t'as la bonne pneumatique, tu peux commencer à entrevoir certaines choses. Et là, sur ce match-là, pour moi, il est fondamental. Il est fédérateur. Tu le sens, dans sa conférence de presse, je l'ai senti différent, tu vois, tu le sens, il a pris des pecs, tu sens tout de suite, la veste est plus serrée, tu le sens plus confiant, mais je vais me confronter à un grand entraîneur qui est Rudy Garcia, comme ça je vais pouvoir voir où c'est que j'en suis. Enfin, j'ai senti, voilà, il a donné des choses durant cette conférence de presse qui laisse à penser que cette équipe a repris un peu d'assurance.
Non.
Alors attention. À l'assurance.
Au deuxième effet qui se roule, c'est
voilà.
Ça?
Voilà. Attends, laisse-moi finir. Et ce qui est bien, c'est que t'as l'installation aussi au sein de son groupe d'une nouvelle concurrence. C'est-à-dire que les mecs qui étaient titulaires indiscutables il y a 2 matchs, il y a 3 matchs, Bertrand Traoré, j'en passe, c'est des meilleurs. Sur ce match-là, ils tentent un coup en mettant des mecs qui courent et les mecs qui font le taf et ils le font plus que bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle concurrence qui s'installe au sein de l'effectif. T'as Nabil Fekir qui prend totalement son rôle de capitaine et qui transcende cette équipe, en tout cas sur le match de Manchester. Donc tout ça, voilà, les feux sont ouverts du côté de Lyon. Attention à l'excès de confiance quand même.
Sauf que le match que fait Lyon, évidemment, on va pas mentir, hein, c'était une surprise pour tout le monde. Mais Lyon, le problème de l'OL, et c'est récurrent depuis l'année dernière, c'est que c'est une équipe qui est toujours très bonne dans les grands matchs, mais qui a du mal à faire le jeu face aux petits. En fait, dès que Lyon, dès qu'ils ont la possession, dès qu'il y a une équipe qui leur laisse un peu le ballon, ils ont du mal. Alors, est-ce que ce match-là, il est vraiment révélateur d'un progrès?
Franchement, moi, je me souviens de la saison dernière, il y a eu des matchs face à des gros, les Lyonnais ont été performants, ils ont fait leur match aussi. Il y a le match face à Paris, il n'y a pas eu que celui-là.
C'est exactement ce que je te dis, Nico. Je t'ai dit, Lyon a toujours été très bon dans les grands matchs, parce que c'est une équipe qui a toujours été plus à l'aise en laissant le ballon.
Tant mieux, c'est Marseille qui arrive, là.
Là, c'est Marseille qui arrive, on est d'accord. Mais Marseille, c'est pas non plus une équipe qui, tu vois, je pense que on l'a vu dans certains matchs qui cherchent pas la possession à tout prix. Mais de là à dire que Lyon a fait des progrès énormes, j'attends de voir. Moi, j'attends de voir face à des équipes qui vont jouer regroupées, parce qu'il y aura toujours, je sais pas, il y a rien qui me. La victoire est très belle, c'est magnifique, c'est un exploit, on va s'en rappeler. On a tous vibré qu'on soit supporter lyonnais ou pas. Mais il y a rien qui nous rassure quant au fait que Lyon va être capable de pas refaire des matchs contre Caen, par exemple,
jouer ce genre de match. Ouais. Et pour savoir ce que ça représente une victoire comme ça sur un match comme ça. Je peux t'assurer qu'ils sont dans une période de confiance et qu'ils vont arriver, au Vélodrome galvanisés. Après,
sur ça je te suis.
Voilà. Je te suis, oui. Donc aussi,
moi
je suis le président. Là, c'est la sortie de ce match. Je les prends le lendemain. Je dis vous nous prenez pour des cons tous.
Parce que
vous mettez plein de fois autant de qualité, autant d'intensité dans un match, après de Lyon. Tu es obligé d'attendre quelque chose maintenant, il y a plus d'excuses.
Alors,
tu peux
justement,
plus te cacher.
Attends, dernière chose là-dessus.
Qui faisait référence?
Attends, vas-y. Le truc le vrai point positif pour Lyon, c'est que on l'avait vu, hein, bon, mais là, Nabil Fekir, il a sorti une prestation majuscule sur la scène européenne dans un match qui compte vraiment, et si on est honnête, on l'avait jamais vu à ce niveau-là sur une telle scène.
Non, mais aussi, il y a quelque chose dans la conférence de presse qui m'a aussi marqué. Au-delà de ça, il a parlé des kilomètres parcourus.
Alors, justement, ne spoil pas, c'est exactement le son que je voulais qu'on lance il y a quelques instants. Tu parlais de ça, justement, il y a quelques instants aussi, là, des kilomètres parcourus par les joueurs. Il a même parlé d'un match référence, d'ailleurs, Bruno Genesio. Ou plutôt, on lui a posé la question si ça pouvait être un match référence. Et là, il a répondu, en kilomètres, l'entraîneur de l'OL.
Quand je parle de course, on associe souvent les courses, aux efforts défensifs, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi des courses en profondeur dans le dos de la défense, ce qu'on n'avait pas forcément vu à Caen. Donc c'est aussi ça que je veux leur faire prendre conscience. Et sans trahir de secret, on a couru à City, on a fait 18 km de plus que ce qu'on avait fait à Caen.
C'est énorme.
Alors c'est pas
c'est énorme.
Suffit pas pour gagner un match, mais je pense que ça veut dire beaucoup de choses dans l'investissement, dans l'état d'esprit.
Ouais, alors c'est intéressant hein, ce qu'il dit, c'est vrai. Et alors la question que nous on se pose finalement, c'est de savoir si Lyon et Marseille ont les moyens de faire une grande saison. Vous en pensez quoi de ça, vous justement? Parce que c'est vrai, il a dit d'un match entre Caen et City, alors ils ont fait 18 km de plus, et tu le disais, c'est vrai que c'est énorme, mais on a l'impression que ces deux équipes, bah, depuis le début de saison, alors c'est que le début, ok, c'est pas hyper régulier non plus.
2 km par joueur, tu te rends compte sur un match, sur un match de haut niveau, ce que ça représente?
Ouais.
Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils ont fait le minimum syndical. Donc aujourd'hui, on voit ça. On est en droit d'attendre du côté des supporters lyonnais, de nous consultants, des prestations au-delà de ce qu'on a pu voir contre Caen. Après Marseille, eux ont cette capacité, cette capacité à souffrir et à mettre du cœur à l'ouvrage. C'est-à-dire c'est une équipe qui court, c'est une équipe qui...
Il y a moins de qualité à Marseille qu'à Lyon, on va être clair, individuellement.
Ouais, je suis pas certain là.
Ah, si tu prends la somme du collectif, par exemple. Il y a quand même des joueurs de classe mondiale. Enfin, il y a un joueur de classe mondiale qui est Nabil Fekir à Lyon. T'as un joueur qui est vraiment, moi je suis fan de, je le regarde avec les yeux de l'amour, mais je pense que Aouar, tu vois, il avait pas commencé sa saison et là il a vraiment commencé sa saison.
Attends, on va dire, allez, un joueur de classe internationale, on va mettre Fekir, ok? En face, t'as Thauvin, par exemple.
Ouais. Mais je pense que, tu vois, collectivement, si tu
fais... un autre champion du monde, t'as Rami, même s'il joue pas lors de la Coupe du Monde à Marseille.
Ouais, Rami, voilà.
Voilà, il est fait. De toute façon, il est blessé, tiens, sachez-le. Mais il est touché aux ischios, on en a pour 10-15 jours.
Peut-être tant mieux.
Bah, peut-être.
Mais si Lyon arrive à garder de la régularité et que Marseille est au niveau, dans la continuité de ce qu'ils font depuis un moment, on va avoir le droit à un très beau classico.
Oui,
très beau classico.
Tiens, il y a
Olympico.
Non, ni l'un ni l'autre. Si vous dites ça, on va se faire engueuler. On dit pas ça.
Ah ouais, Moël, c'est très bien.
Voilà, c'est parfait. C'est une réaction sur l'application directionnelle de la Tamès qui dit sincèrement, ce match de dimanche est impronosticable. Tout peut arriver. Le seul regret que l'OM a, c'est de ne pas être en mesure d'aligner le 11 type alors que Lyon le peut en revanche.
Bah pourquoi quel regret? Qui à Marseille manque dans le 11 type à part Adil Rami qui est à la rue depuis le début de la saison?
Bah il te manque Adil Rami par exemple.
Bah c'est très bien, comme ça sera
Mandanda, Bouba Camara. Il est pas à 100%.
Bah, il va jouer.
Ouais, mais il est pas à 100%.
Ça sera Bouba Camara, j'espère qu'il jouera avec Luis Gustavo en charnière centrale, et c'est la meilleure charnière centrale que tu peux aligner pour le moment tant que Tchaletachar là n'a pas encore montré plus que ça.
On accueille Romario, supporter de l'Olympique de Marseille qui nous a appelé au 32-16. Salut Romario.
Salut les gars.
Salut Romario. Romario, c'est un pseudo, rassure-moi.
Ouais, c'est un pseudo donné par Gilbert et Daniel à l'époque quand ils sont venus à Marseille.
Ah, d'accord. Comment tu le sens toi ce match là dans deux jours là face à Lyon?
En fait, je suis un petit peu sceptique. Je dis pas qu'on va perdre, loin de là. Mais c'est un match qui va jouer à l'orgueil, à la fierté, et le 3-2 de l'année dernière à domicile où on perd le but
et
de.
Tu peux
de
les mettre à 8 points si tu gagnes.
Non, mais voilà, c'est tout ça, tu vois. C'est toutes ces phrases-là. Exactement. Et j'étais au stade.
Et les phrases d'après-match, surtout. On va les crever, etc. Et après, en fin de match, Thauvin, il avait promis l'enfer.
Zambou Anguissa qui avait dit ça.
Exactement.
Et Mandanda, à la fin, après le match, a dit, on parle trop ici. On parle trop.
Et Thauvin qui avait dit à la fin qu'il y aurait une vengeance qui reviendrait lors de la prochaine confrontation contre Lyon. Tu te rappelles?
Bah alors attends, ouais, je vais refaire la même question que j'ai posée à Ludo et à Jonathan. Est-ce que, qui selon toi, entre Lyon et Marseille, a le plus de moyens de faire une grande saison?
Tout le monde. Non, mais tout le monde. Et j'ai entendu ce qu'a dit Jonathan au préalable. Il expliquait qu'il y avait peut-être plus de qualité à Lyon. Je trouve qu'il n'y a pas plus de qualité à Lyon parce que entre Lucas Touzard et compagnie là, enfin tous ces joueurs là, pour moi
j'ai été un peu berné parce que je pensais surtout offensivement. Il y a plus de densité, il y a plus de nombre.
Je suis d'accord avec toi. Alors ça, je suis d'accord avec toi.
Dembélé, Terrier, Traoré, Fekir.
Le côté offensif, ils sont peut-être un peu plus fournis. Ils sont peut-être un peu plus fournis.
Après au milieu de terrain, Marseille est meilleur.
Voilà, ça n'a rien à voir.
Après en défense, ça dépend de la formule. Parce que les latéraux lyonnais, c'est quand même très très fort. Hein, Ferland Mendy, Raphaël, c'est quand même très fort. Et la charnière, voilà, Marseille, je pense qu'il y a une charnière.
Ils ont été forts sur ce match de Manchester City, je l'ai regardé. Ils ont été forts sur le match de Manchester City parce que franchement, comme tout le monde, hein, je voyais, et j'aurais souhaité même, pour te dire très honnêtement, la défaite de Lyon. et je voyais pas du tout la victoire, mais je crois qu'il y a personne qui la voyait la victoire. Voilà. Oh non, mais je suis supporter de l'OM, je suis pas supporter de Lyon.
Ça reste complètement con, hein, parce que pour l'indice UEFA, c'est bon pour personne.
Ce match, c'est aussi l'occasion de voir d'ailleurs la confrontation Garcia-Genesio qui va être intéressante aussi.
Ben moi, Jérôme me dit heureusement que Rennes est là pour l'indice. Ouais, et ça, tout le monde s'en fout.
Mais on s'en fout de l'indice UEFA. Bah non, t'es supporter comme Romario, tu t'en fous.
Mais comment tu peux t'en foutre quand tu vas te retrouver avec deux clubs qualifiés en Ligue des Champions?
Quand t'es supporter d'un club comme Romario, tu t'en fous. Je peux le comprendre. C'est pas la réaction la plus intelligente, mais c'est compréhensible.
Aujourd'hui, moi, ce que j'attends, c'est de voir le match de dimanche. Dans ce que j'attends dans ce match de dimanche, j'attends vraiment que, offensivement, on nous propose autre chose que Germain en attaque, tu vois, pour parler de l'OM.
Il jouera pas, ça sera assez
mitro en ce moment plutôt.
Voilà, mais tu vois, des actions comme il y a eu là contre.
Attends, Romario, on va être clair. Le match contre Francfort, j'ai entendu des gens dire que ça remettait tout en question. Tout en question, c'est-à-dire la très belle performance contre Monaco et la belle seconde mi-temps contre Guingamp.
Non, ça remet pas tout en question, c'est le manque d'efficacité.
Et ce que je te dis, l'équipe, attends, Romario, l'équipe qui a gagné contre Francfort, tu joues avec Casper, c'est pas qui est Valère Germain, qui est invisible et qui doit plus jouer à l'OM, qui aurait dû aller ailleurs, qui aurait dû partir parce que c'est pas bon pour lui et c'est pas bon pour le club. Tu joues avec Germain, tu joues avec en devant réorganiser ta charnière dès la cinquième minute contre Rami Spett, parce que je pense que Rami, au passage, il est très mal géré par Rudy Garcia, qui s'entête à la lignée alors que je pense qu'il faudrait un petit peu le mettre au frigo le temps qu'il se repasse un petit peu pour pouvoir lui redonner sa chance. Il a eu un été chargé, il a été champion du monde, il a passé des bonnes vacances, etc. Et surtout, je pense que alors Ludo, t'es certainement mieux placé que moi pour en parler, mais c'est quand même bizarre ces matchs. Il y a personne dans le stade, quoi.
Ah bah c'est sûr que c'est pas agréable. Et d'ailleurs on va y revenir. Je voulais vous l'évoquer dans quelques instants. L'UEFA a confirmé aujourd'hui la sanction à l'encontre de l'OL qui avait été prise le 28 août dernier. Un match européen à huis clos, un autre avec sursis de 2 ans plus 100 000 euros d'amende suite aux incidents du match face au CSKA Moscou. Ce qui veut dire que le match face au Shakhtar sera à huis clos le 2 octobre prochain. Alors l'OL a annoncé qu'il allait saisir le TAS, hein, le tribunal arbitral du sport. Mais il y aura un autre match à huis clos pour un club français en Coupe d'Europe également. Donc ce match,
donc,
en théorie.
Donc t'as ça et une sanction financière, c'est ça?
Exactement. T'as une amende et t'as un match à huis clos plus de matchs avec sursis également. Romario, merci de nous avoir appelé.
Merci Nico, merci l'équipe.
Et un t-shirt de l'after pour toi, les nouveaux en plus. Hein.
Ah bah ça me touche.
Tu vas pécho avec ça, mon pote.
À bientôt Romario, salut, bonne soirée, bisous.
Allez,
à
bientôt. Ciao.
On accueille Floris, supporter de l'OL, qui lui aussi nous a appelé au 32-16. Salut Floris.
Salut l'équipe de l'after.
Salut Floris.
Bon Floris, comment tu sens ce classico? Je récupère ces mots. Ce match, pardon, dans deux jours entre Marseille et Lyon. Et plus globalement, comment tu la sens la saison de l'OL là, du coup là? Parce que c'est vrai que là, vous êtes passé par toutes les émotions.
On a une toute autre ambition. Déjà, avant le début de saison, on avait une ambition élevée et parce qu'on savait la valeur de l'effectif. On savait ce qu'on valait et là on l'a vraiment montré. C'est sûr que là c'était vraiment un match exceptionnel qu'on a fait sur tout point, mais on sait qu'on est capable de faire on est capable de jouer comme ça, on a le niveau, on peut le faire. J'entendais Jonathan tout à l'heure dire à l'auditeur marseillais que Marseille est bien meilleur milieu que Lyon. Non, je suis pas d'accord. Meilleur déjà, ça se joue, mais bien meilleur, c'est pas possible. Avoir Ndombélé, on a vu ce que ça vaut.
Strootman, Gustavo, sur le papier, c'est pas meilleur. Je te parlais juste sur le papier, Floris. Strootman, Gustavo, c'est moins prometteur parce qu'ils sont plus âgés et que c'est des joueurs confirmés.
Gustavo va jouer au milieu.
On sait pas. Ce qui murmure, c'est que ça serait peut-être Camara avec Char.
En tout cas, tout ce que
ça serait peut-être Camara et Char. Donc
en tout cas, ce que j'ai vu de Ndombélé et Diop au milieu mercredi, c'est quand même.
Mais c'est plus prometteur.
C'est quand même prometteur.
Je suis d'accord, c'est plus prometteur parce qu'ils sont plus jeunes, ils ont un très gros potentiel. Mais là maintenant, à l'instant T, c'est incomparable. C'est incomparable. T'as deux joueurs qui sont confirmés sur le plan international contre deux joueurs qui sont largement en devenir avec autant de potentiel que tu veux, ça y a pas de souci. Mais il y a deux choses qui m'intéressent sur ce match, c'est que je pense qu'on peut dire, tu vois, sortir du cadre purement du terrain, c'est que Marseille-Lyon, je pense que c'est devenu le vrai match avec le plus d'antagonisme. Tu vois, ça a remplacé Marseille-PSG. On est d'accord là-dessus? C'est le match où les supporters.
Parce que l'année dernière, voilà, il y a l'huile sur le feu qui
est. Ah, il n'y a pas que l'année dernière, rappelle-toi. Ça date de Diouf contre Olas.
Ouais, après, je sais pas.
La rivalité.
Moi, pour moi, la rivalité, ça reste PSG-Marseille, mais. Parce que ça va, il y a toute la dimension.
Alors, je peux te dire qu'à Marseille.
Régional,
à Marseille, vu que les Marseillais sont tellement résignés par la domination parisienne, je t'assure que le match que t'attends et que t'as vraiment envie de gagner, c'est le match contre Jean-Michel Olas. Ça date de l'époque Pape Diouf.
Tu crois que ce match-là, il est plus important pour les supporters que celui contre Saint-Etienne? Je suis pas certain, moi.
Ah, Floris, je pense.
Floris, tu préfères quoi? Taper Lyon, taper Marseille ou taper Saint-Etienne?
La question se pose même pas, les gars.
C'est peut-être que du côté marseillais. Mais je t'assure que du côté marseillais, tu demandes à n'importe quel supporter marseillais.
Moi, je vous lance l'appel sur le hashtag RMC Live et surtout sur l'application
Direct Studio. Marseille, ils vont dire pareil, ils préfèrent taper PSG.
Supporter de Marseille, vous préférez quoi? Taper Paris
ou taper Olas?
Taper Lyon.
Non, taper Olas.
Arrête avec taper Olas.
Eh, parce que c'est ça, en fait.
Et bah alors, quand tu tapes Paris, tu tapes la capitale, tu tapes le symbole aussi.
Je te dis, en 30 secondes. Il y a, ça date de l'époque, des passes d'armes entre Pape Diouf et Jean-Michel Olas. T'as l'épisode du but, que Lucas Ocampos met et qui est pas accordé à Marseille, qui les sort de la course au titre l'année de Marcelo Bielsa. T'as 3 années de suite avec des matchs avec incidents. Je t'assure que dans les tribunes marseillaises, c'est devenu le match le plus important. Après, on verra le sondage. Lolo Fallon, on va voir.
Appelez-nous,
pas le sondage.
Appelez-nous.
Et après, la deuxième.
Tiens, fais-nous un sondage, tiens, Lolo. C'était là.
On travaille jamais de manière. Non mais et la chose qui est intéressante aussi, c'est que le parallèle par rapport à la saison dernière, il est frappant. Marseille l'année dernière, ils peuvent mettre Lyon à 8 points et s'assurer de terminer sur le podium. Là, t'as une sorte de mini tournant dans le début de saison. Ils peuvent les mettre à 6 points, ce qui est contre un adversaire direct. C'est important. C'est important. Et moi, je me fierais pas à ce qu'on a vu sur la scène européenne, à savoir la très belle victoire de Lyon et le match pathétique de l'OM, parce que c'est autre chose. Je pense qu'on va voir deux équipes très différentes de ce qu'on a vu cette semaine.
Tu voulais rajouter quelque chose, Floris?
Non, c'est bon, on a tout dit. Après, moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on va montrer les mêmes caractéristiques que dimanche et pas seulement sur le match de Marseille. Là, je pense que dimanche contre Marseille, il n'y aura pas de souci, pas dans le résultat, mais dans l'envie des joueurs. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que Bruno Genesio arrive à maintenir cet état d'esprit tout le long de l'année. Oui, à la place de Maxwell qui a fait un très bon match, il y a rien à dire. J'étais très sceptique, mais peut-être Traoré, parce qu'avec les efforts qu'a fait Maxwell, ce sera peut-être dur de les répéter dimanche.
Merci beaucoup, Floris, de nous avoir appelé.
Salut, Floris.
Merci.
Allez, merci
bon
les gars.
Salut. T'es d'où, Floris, avec cet accent là?
Il est de Montpellier.
Montpellier, d'accord.
C'est de l'Hérault, c'est ça, Floris? Bah attends, le coupez pas. Mettez-le. T'es là, Floris?
J'ai pas entendu. Excusez-moi, les gars.
On te demandait de quelle région t'étais parce que t'as pas vraiment l'accent lyonnais, tu veux.
J'entends pas, je suis désolé les gars, ça coupe.
Allez, ouais, c'est pas grave.
Ouais, laisse tomber, Floris.
Ciao,
il parle rien, non?
Allez, ciao.
Ciao, Floris.
Non, il est du sud,
il est du sud.
Il a l'arrogance sudiste, Ludo.
Floris Mérogis.
Oh, c'était nul. Mais on va faire comme c'était drôle.
Si, c'était bon, bravo. Ce match entre Marseille, Lyon et Marseille sera donc dans 2 jours. On rappelle que ce soir, il y a eu match nul entre Monaco et Nîmes, la première affiche de la 6e journée de Ligue 1. Je donne une information également qui concerne l'OL. Ce supporter de l'OL qui avait été filmé en train de faire un salut nazi lors du match face à City a été identifié par le club. Communiqué de l'Olympique Lyonnais, je cite, l'Olympique Lyonnais condamne fermement de tels agissements et rappelle qu'il a immédiatement pris des mesures d'interdiction définitive du stade et de tout déplacement officiel organisé par le club à l'encontre de cet individu. L'OL a déposé une plainte contre cette personne.
Ouais.
Ils ont quand même très vite réagi, hein, les Lyonnais.
Ouais, mais bon, c'est pas comme s'ils sortaient les mêmes communiqués de presse à chaque fois et qu'on revoyait pas ce même genre de geste dans les tribunes lyonnaises.
Oui, d'accord, mais en attendant, le mec, s'il est banni, tu vas pas virer un mec qui a pas fait de conneries.
Je pense que le problème dans les tribunes lyonnaises, c'est plus un problème de fond. Et ouais, que le club, c'est très difficile pour le club de résoudre ce problème-là.
Tu sais que j'ai pas le droit d'en parler, mais il y a un livre qui est sorti sur le sujet.
Bah, je l'ai acheté
il y a quelques jours. Voilà.
Il est très bien, ouais, d'ailleurs. Et j'encourage les gens à l'acheter.
Merci beaucoup.
Et tu me paieras en quoi boire après.
Faut pas dire qu'il a écrit, faut pas dire ce que c'est comme livre, bien entendu. Dans quelques instants, vous aurez les images de la première victoire de Nancy cette saison en Ligue 2. Eh ouais, après 8 journées, premier but marqué et tout ça. C'est dans quelques instants avec Ludo Bragnac et avec Jonathan McCarthy. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovico Bragnac et de Jonathan McCarthy, vous avez vécu sur RMC ce soir la première affiche de la 6e journée de Ligue 1, le match nul un partout entre Monaco et Nîmes. 6 points seulement pour l'ASM depuis le début de la saison, 8 déjà pour le Nîmes Olympique qui est de retour dans l'élite du foot français, ça vous le savez déjà bien entendu. Et puis on est à J-2 du match entre Marseille et Lyon. Marseille qui s'est incliné hier en Ligue Europa face à l'Eintracht Francfort à domicile et Lyon qui s'était imposé en Ligue des Champions à l'Etihad face à Manchester City. Et alors on se posait la question de savoir laquelle de ces deux équipes pouvait réaliser la meilleure des saisons. Si elles pouvaient d'ailleurs faire une grande saison également, elles qui sont un petit peu instables. Oui, c'est un peu du pronostic, Stadi, mais il y a des tendances qui se dégagent également. Et puis alors, le sondage a été suggéré par Jonathan McCarthy. Supporters marseillais, allez voter sur le compte Twitter de l'After. Aujourd'hui, vous préférez battre qui? Paris ou Lyon? Tu veux la réponse?
Donc d'après ce qu'on comprend sur les premiers votes, c'est plus Lyon, mais Paris par résignation.
Non, Paris sur maintenant le fait est repassé devant. 62% ouais, maintenant pour le Paris Saint-Germain. Et tiens, on a Yannick, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16 pour répondre à cette question. Salut Yannick!
Salut à vous.
Salut Yannick. Ça va Yannick?
Ça va très bien.
Alors toi, en tant que supporter de l'OM, tu préfères quoi alors? Battre Paris ou battre l'OL?
Alors en tant que supporter marseillais, pour cette saison, je préfère battre.
Ah non, c'est pas pour cette saison, c'est globalement.
Ah, globalement, ouais, en tant que supporter marseillais, je préfère battre toutes les équipes. Mais pour cette saison, évidemment. Mais pour cette saison, oui, c'est vrai que notre rival numéro un. Donc, je pense que ce match sera déterminant pour tout le monde.
On l'a perdu.
Allô
là.
Yannick?
Elle me donnait raison, c'est pour ça que tu l'as coupé.
Ah non, j'ai la main sur rien. Moi. T'es là, Yannick?
Oui, je suis là.
Alors,
je suis là.
Le rival numéro 1, c'est qui?
C'est vous m'entendez ou pas?
Ouais, oui. Dis-nous, le rival numéro 1, c'est Lyon ou Paris alors?
Alors, pour moi, le plus important, c'est Lyon.
Non, mais il brode, il dit cette saison. Non,
c'est... le club que tu détestes le plus maintenant, en tant que Marseillais, c'est Lyon ou Paris?
En tant que Marseillais,
Lyon de
l'As
ou le PSG Qatar?
Oui, mais Paris, c'est pas résignation, c'est parce qu'il n'y a plus de match entre les deux.
C'est juste
pour ça.
C'est ce que je te dis.
Exactement, parce qu'ils sont sur une autre galaxie en championnat.
Donc, le club que tu détestes le plus,
qu'est-ce qui te fait plus vibrer, c'est de battre
le club que tu préfères battre, on va dire.
Ah, ben là, cette saison, ça sera l'Olympique Lyonnais. Voilà. Mais, sinon, en tant que Marseillais, pendant toutes les saisons, ça sera toujours le Paris Saint-Germain. Ça sera indéniable, c'est dans l'ADN.
Toi, t'es un peu François Bayrou, quoi. T'es à gauche, t'es à droite, mais tu sais pas trop répondre.
Je sais exactement ce que je veux. Donc,
on a bien compris.
Je suis réaliste, mais c'est vrai que, cette saison, c'est très important de battre l'Olympique Lyonnais, donc,
Bon, qu'est-ce que t'en penses pour ce match de dimanche, là? Tu le vois comment?
C'est un peu paradoxal, parce que c'est vrai que Lyon ont fait une très très bonne partie contre Manchester City. Nous, on a perdu contre... Comment?
Ça vous inquiète, ça, un peu, ou pas, le match que vous avez vu mercredi?
En tant que, dans l'intensité du jeu, un petit peu, parce que c'est vrai que nous, dans l'intensité, contre Francfort, en Europa League, on n'a rien vu. Donc,
juste au Campos qui s'est un peu bougé.
Comment?
Il y a juste au Campos qui s'est un peu bougé, quoi.
Ouais,
c'est... Comme d'habitude, ouais. D'ailleurs.
Voilà. 4 matchs par saison, comme on dit. Mais, il faudrait qu'ils soient un peu plus réguliers, mais c'est vrai que...
Au Campos? Tu peux lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est toujours le chien de la casse sur le côté. Tu peux lui reprocher beaucoup de choses, sauf de manquer d'engagement.
Ouais, mais, on a le choix, on avait le choix, on n'a pas le choix, en fait.
Je comprends pas, il devrait être votre chouchou au Campos. Il est le garant de l'état d'esprit. Bien sûr.
Ouais, mais parfois
Marseillais.
C'est brouillon, tu vois, c'est tout droit.
Non,
c'est...
Franchement, moi, je l'ai dit.
Moi, je veux bien, mais c'est volontaire, mais il y a des matchs, franchement, quand il est fort. Voilà.
Il a fait des matchs énormes.
Je pense que Jordan Amavi,
l'année dernière.
Tu sais quoi? Qui a pas été très bon, ces derniers temps, mais je pense qu'il peut lui faire une petite statue à Lucas Ocampos.
Oui, parce que il a ce qu'on représente l'Olympique de Marseille, il a cette envie, cette hargne et son engagement fait plaisir. Après, c'est vrai qu'au niveau de ses statistiques,
Il a mis combien de buts?
Ces stats, elles sont pas dégueu.
Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on lui fait un mauvais procès parce que c'est un mec qui va justement au combat, au physique. On pense que c'est un mec qui est pas technique.
Yannick,
moi, je l'ai vu mettre des buts, des reprises de volée, des ciseaux.
C'est un très bon joueur. C'est pas un super joueur, mais c'est un joueur sûr. Et il est garant, comme tu dis, de l'état de
jeu. Il met son nom en premier.
Je pense, ouais.
Tiens, et je vous juste pour finir avec les votes là, 60-40 hein, Paris. Hein. Donc voilà, les supporters de Marseille préfèrent à 60% battre le Paris Saint-Germain plutôt
60% que 60% de foot, c'est pas
désolé,
grave.
Désolé Jonathan, désolé Yannick.
Ah mais attends,
belle
cette question là, à un moment ça aurait été 100-0.
Ouais,
t'as quand même une évolution. Bah non, mais
il y a même un moment ça aurait été 0 tout court parce que le PSG n'existait pas, si tu veux savoir, mais Yannick, bonne soirée à toi. Salut.
Bonne soirée à vous, merci
de papillon, je suis à voir.
Alors il y en a un qui a rien compris, mais je vais quand même lire. C'est Katia, je crois. Elle dit coucou les gars, je préfère 1000 fois taper Lyon que Saint-Étienne, ce sont devenus nos rivaux. Alors t'as la radio, tu nous regardes, tu comprends pas. On a une revanche à gagner, donc allez l'OM. Mais en fait, quand on disait Lyon-Saint-Etienne, c'était entre Lyon et Saint-Etienne. Bon bref, c'est pas très grave, c'était sur l'application Direct Studio. Petit mot sur Nancy les gars, parce qu'il y avait de la Ligue 2 également ce soir, 8e journée de Ligue 2. Et premier point arraché par Nancy cette saison. Il était temps, 0 point, 0 but marqué après 7 journées pour l'AS Nancy-Lorraine qui est allé s'imposer 1-0 à Ajaccio face au Gazélec. C'est Maboulou qui a marqué le seul but du match en seconde période. Il était temps pour Nancy quand même.
Il était plus que temps, mais bravo à eux parce que honnêtement, on a suivi le match sur le multiplex Et franchement, on a cru à un moment donné que ça allait se retourner une nouvelle fois contre eux. Ils ont joué de malchance sur ce match. Ils ont eu des occasions. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match, Nancy, paradoxalement. Ils ont deux occasions. J'ai cru qu'ils allaient se faire punir une nouvelle fois à la fin, qu'ils allaient perdre un zéro misérablement et qu'ils allaient enchaîner une huitième défaite ou une neuvième défaite de suite, je sais plus. Huitième ou neuvième?
Ça aurait été la huitième, là.
La huitième de suite.
Non, mais surtout, ce qui est dingue, c'est que, enfin, c'est leur première victoire là, leur premier point, après huit journées, et ils sont tous sauf largués, les mecs, hein. Ils sont à trois, à un point seulement du Red Star, qui est avant-dernier. Bon, alors, ok, le Red Star irait. Il y a l'AC Ajaccio qui compte 6 points, Béziers aussi, et t'as Auxerre et 3 avec 7 points. C'est-à-dire qu'ils sont même pas largués, les mecs, encore. Hein. Ils ouais. peuvent se sauver encore. Ouais, bon, la saison est encore longue, bien sûr, mais quand même. Hein.
Bah, c'est souvent le cas en Ligue 2, sur les débuts de saison, où t'en as qui partent très fort, des autres qui partent moins fort, mais ça s'équilibre sur le reste de la saison, et ça fait des fins de championnat assez serrées, notamment pour les barrages. À chaque fois, il y a quand même pas mal de prétendants.
Et demain, il y a une belle affiche entre le PFC et Metz également. Alors Metz, qui est bon leader, hein, incroyable hein, ce que fait Antonetti là-bas.
C'est pas possible. C'était l'homme. C'était
après toutes les erreurs que le club a pu faire toutes ces années. Je dois dire que le choix de Fred Antonetti, c'est quand même une belle trouvaille.
Ouais. C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Il excelle dans une division qui est à son niveau.
Voilà. C'est dégueulasse ce que tu dis. C'est complètement faux d'ailleurs. C'est complètement con d'ailleurs.
J'exagère un peu, mais non, mais c'est très bien ce qu'il fait.
C'est complètement con ce que tu dis.
Pourquoi?
Bah parce que pourquoi il aurait pas le niveau de la Ligue 1, enfin ça veut dire quoi?
Non mais c'est juste qu'à un moment, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un cador des entraîneurs français.
Non mais il a jamais entraîné un top top club.
Ça m'a toujours choqué.
Non mais Jonathan, c'est quand même
excuse-moi.
C'est quand même un entraîneur qui est respectable sur le championnat.
Il était à Lille.
Et alors?
Bah Lille c'était un top club.
C'était un top club français. Ouais, d'accord, mais
à l'époque Lille c'était un top club français. Mais non, mais je te dis ça, j'ai rien contre lui hein, mais c'est juste qu'à un moment il y a beaucoup de gens il y a même des gens qui pensaient qu'il devait prendre l'équipe de France, rappelle-toi un moment. Il y a des papiers, Antonetti devrait prendre l'équipe de France.
Peut-être prendra-t-il l'équipe de Corse, si on en reparle dans quelques instants d'ailleurs de cette histoire aussi. Pour finir sur Antonetti.
Non mais Jonathan a tendance à oublier aussi ce qu'il a fait du côté de Nice, notamment la période
tu vois, il fait le taf quoi le mec.
Non mais moi j'ai rien contre lui, je te dis juste qu'à un moment il y a des gens qui pensaient que Antonetti.
Après oui, à Rennes ça s'est mal passé, mais comme tous les mecs qui sont passés à Rennes avant et après lui.
Je te dis juste qu'à un moment il y a des gens qui pensaient qu'il
aurait. Non mais d'accord, tu vas chercher un truc. Bah dis-moi qui.
Et bah il y a des papiers dans plein de journaux
pour être sélectionné de l'équipe de France. Ouais, j'ai pas souvenir de ça,
je te les ressors, je te les envoie sur Twitter.
Envoie-les-moi, OK. Vas-y, OK.
Et n'en déplaise à Flo Balmont qui nous écoute peut-être ce soir, avec qui il a eu quelques velléités. Moi je l'ai rencontré quand je suis revenu de ma période en Israël. Je me suis entraîné quelques temps avec le LOSC, il avait eu la gentillesse et la générosité de me prendre avec lui, avec le groupe le groupe A, et donc j'avais appris à le découvrir à ce moment-là, et c'est un très bon coach et quelqu'un qui mérite justement plus de respect que
mec
qui la Ligue 2 c'est à son niveau.
Ben non, le top de la Ligue 2, remonter en Ligue 1, faire jouer un promu, le maintenir, ça pour moi c'est très bien.
Allez messieurs, d'autres infos du jour également dimanche 17h, autre match au-delà du match entre Marseille et
la Ligue 2, c'est
Lyon.
L'élite hein.
Guingamp, Bordeaux, deux équipes en crise, match qui marquera les retrouvailles entre Briand et Guingamp. Alors vous vous souvenez de cette image qui avait fait le buzz, Benezet qui attisait les braises de son barbecue avec le maillot de Jimmy Briand, alors qu'il avait annoncé qu'il allait quitter Bordeaux, qu'il allait partir en MLS, qui finalement a signé du côté des Girondins de Bordeaux. Et ben le Guingampais, il espère que Briand, il sera bien là pour ce match face à Guingamp.
J'ai hâte qu'il joue parce que je sais que ça va être une motivation pour tout le monde et j'ai rien contre lui en particulier, donc mais par contre là ça sera mon adversaire, donc si je peux le marcher dessus, je marcherai dessus.
L'accueil sera hostile selon vous?
Je sais pas ce que lui réserve le Roduro, mais je pense pas qu'il aura des applaudissements, c'est sûr.
Voilà. Et ben ça va être chaud hein.
Non mais ceux qui connaissent Nicolas Benezet, ils savent qu'il c'est un adepte du second degré aussi, il fonctionne souvent comme ça.
Enfin là le public ils vont pas tous le prendre au second degré.
Jimmy Briand et tout ce qu'il a fait pour Guingamp, sans déconner.
Ah bah moi je pense qu'il y en a qui sont mauvaises.
Franchement, ils ont peut-être mauvaises.
Le président de l'été, il a été
tout l'été, il y a eu une sorte de psychodrame.
Oui, donc ça a été tendu.
C'était le moment pour lui de partir. Il a fait trois saisons là-bas.
Ça s'est mal fait.
Peut-être.
Vraiment, tout cet été, pour avoir suivi le dossier de près, c'était pas très propre.
D'autres infos également, le jeu Boutoba qui a signé du côté de Montpellier. Voilà, joueur formé à l'Olympique de Marseille.
Qui est parti à Séville, qui aurait dû signer pour Marseille, que Bielsa a repéré, qui a été se casser la gueule à Séville. J'espère que ça va marcher, c'est un beau joueur.
Et bah du coup, il a signé du côté de Montpellier. Sachez qu'Aguero a prolongé à City jusqu'en 2021.
Info, j'espère.
Coscar Tabarez.
Voilà.
a prolongé avec l'Uruguay. Il a signé pour 4 ans à 71 ans, professeur.
Et ça fait, il va faire en gros, c'est en tête sa 12e année. Et je pense qu'il re-signe et que même quand il va faire ses 4 ans, je pense qu'il restera quand même à la Fédé parce qu'il chapeaute quand même toutes les catégories.
Il fait tout depuis 20 ans là-bas. Il a tout fait.
La révolution culturelle uruguayenne, c'est lui.
Et alors la Corse, qui veut donc intégrer la FIFA, c'est l'Assemblée de Corse qui a adopté une mention afin de permettre à la Squadra Corse d'être affiliée à la FIFA. Alors il faut savoir que les statuts de la FIFA, c'est l'article 11, alinéa 6, et bien précise, avec l'autorisation de l'association membre du pays dont elle dépend, donc la France en l'occurrence, une association d'une région n'ayant pas obtenu l'indépendance peut également demander l'admission à la FIFA. Alors en gros, la FIFA doit donner son aval, comme elle l'a déjà fait d'ailleurs pour la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti par exemple. Il faut savoir qu'il y a 25 associations membres de la FIFA qui ne représentent pas un État souverain. C'est le cas par exemple de l'Écosse, de l'Angleterre, qui sont pas des États souverains, puisque le Royaume-Uni, lui, est un État souverain. Et alors Noël Le Graët a répondu à cette demande il y a quelques minutes. Il a déclaré, c'est clair, la fédération ne prendra pas une décision positive tant que l'État ne considérera pas que les départements ont une certaine autonomie. Il n'y a même pas à discuter de notre part, notre position correspond au droit tout simplement. La Corse est un département français, alors ce qui techniquement n'est pas exact, mais je suis breton, dit-il, j'adore la Bretagne, je ne conseillerais pas au président de la région Bretagne d'aller voir la FIFA, ni au président de la région normande. Il n'y a aucune différence pour moi entre les départements français, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, à laquelle je suis très attaché, ou la Corse, que j'aime beaucoup. Donc c'est une question qui n'amène pas de réponse. On précise juste que la Corse est une collectivité territoriale unique. Alors c'est le cas également par exemple de la Guyane, de la Martinique également, ou de Mayotte. Faut savoir qu'aucun de ces pays n'est affilié à la FIFA.
Mais ça, c'est typiquement, pour moi, c'est symbolique de cette espèce de fracture jacobine que crée la violence symbolique de la mondialisation et qui aura jailli, qui exacerbe une sorte de régionalisme défensif. Et non, mais c'est super intéressant à développer. On pourrait parler de ce qui se passe en Catalogne. Là, pour moi, ça doit pas créer de précédent et je suis totalement contre, même si j'ai rien contre nos amis corse.
On sent l'influence du Quai d'Orsel.
Là, il y a Ludovic Aurélien qui est en train de saigner des oreilles, faut le savoir. Bref, merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer cet after. Et nous, on se retrouve demain. Demain, il y aura du foot et de la boxe. Demain, il y a un gros combat. Match. Joshua,
Povetkin, mais le plus important, c'est Wilder, Fury.
Allez, à demain, bisous,
on
n'est
pas des boxistes, nous.
Tout le foot avec maxouti.com, le site français pour la maison, le bricolage et l'outillage professionnel. maxouti.com.
RMC Football Show, l'After Foot.